Salut Charline.
Bon, on envoie le bout de cette présidentielle. Hein.
Ouais. Plus de 15 jours.
Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah. Ah. Oui, bonjour.
C'est Laurence Bloch, c'est la directrice.
Ah. Oh là, elle a pas l'air contente. Oui, Laurence, oui. Oui, très bien, oui. Oui, on va y remédier. Hein. Ah. Oui, au revoir, oui. Bon bah voilà, elle est fâchée là.
Ah, je sais, elle a pas aimé la brève d'Alex là sur le nid jambiste qui a trébuché dans son labrador.
Non, mais non, c'est toi là.
Quoi, moi?
Oui, toi.
Mais qu'est-ce que j'ai fait moi? Ah,
bah, depuis lundi, on est sous le coup de l'égalité des temps de parole,
oui.
D'accord. Oui, bah donc quand on écoute un candidat 10 secondes,
oui.
On doit impérativement entendre sur la même tranche horaire tous les candidats 10 secondes.
Oui, hein. Alors oui.
C'est pas énorme 10 secondes.
C'est vrai, sauf que Guillaume hier, Jean Lassalle, 2 minutes 38 t'as fait.
Ah, oui, mais bon, il fait que 1% Jean Lassalle.
Ah ouais, donc on va devoir
C'est ça, on va devoir diffuser 2 minutes 38 de tous les autres
candidats.
Oh, mais moi, cheminade, moi, je m'endors après 1:30 max.
Oh là là. Et Asselineau
une 10, Asselineau.
Bah, Arthon, on peut pas s'endormir parce qu'on a l'impression qu'elle te hurle dessus.
Oui, oui bah, on est bien dans la mouise. Hein.
Mais c'est égalité parfaite, parfaite, tu
veux dire ? Oui, c'est le CSA qui calcule.
Non, parce que dans mon interview, Jean Lassalle, il imitait un veau qui tête.
Ouais.
Et je vais devoir aller demander à tous les candidats d'imiter un veau qui tête.
Oh là là, mais le plus fou, c'est le gars du CSA qui écoute notre émission avec ses 11 chronomètres, là, pour vérifier.
Ça, c'est pas un emploi fictif, hein.
Ah. Allô ? Oui, Laurence, oui. Oui, très bien, je lui dis. Hein.
Oh, mais qu'est-ce que j'ai encore fait ?
Non, mais elle voulait aussi me dire qu'elle avait pas aimé la brève sur le nid jambiste dans le Fox Terrier. Là.
Ah, c'était un labrador.
Bonjour la France Inter, bonjour la France entière. Vous écoutez l'émission qui survole la campagne et constate que c'est un terrain accidenté. Et voici les trois informations qu'on va semer à travers champs jusqu'à 18h. Nos élus oublient un peu trop souvent qu'ils ne sont que nos représentants. S'ils abusent de leurs privilèges, c'est peut-être que nous, citoyens, nous leur avons montré trop de déférence. Et voilà le résultat.
Vous êtes là aussi pour que je vous éclaire, vous instruise, vous élève et vous envoie vers un avenir qui ne vous est plus inconnu, alors qui même me suivent.
Le camp de Grande-Synthe a été détruit par un incendie volontaire. Sursaturé, il était devenu invivable et pourtant, c'est le seul qui au départ était aux normes humanitaires, sachant que la norme reste une chose toute relative.
C'est comment chez vous, Jean Huc? Les murs sont en... Vous séchez?
Mais du tout, Mme Goulard. Aussi sur des truelles, ça nous fait des briques.
Le garçon de café parisien est notre ambassadeur auprès des touristes. Il est pourtant réputé pour son manque de diplomatie. C'est en train de changer au profit du sourire permanent ultra bright à l'américaine. Quant au client, il ne se remet jamais en question, lui.
Tu m'en aides bien aussi, s'il te plaît. Et une fraîche, si tu as. Et tu vas profiter pour changer de verre aussi. Celui-là, écoute le savon. Là que j'aime bien la mousse, mais tu m'as pas exagéré, hein.
Et je suis accompagnée de celui qui en connaît un rayon en houblon. C'est Alex Vizorek.
Mais oui, bonjour, Charline Benonaker. Et aujourd'hui, autour de la table, attention, belle équipe, 17h20, celui que les Inrock ont appelé l'oreille musicale de France Inter. Et nous avons reçu beaucoup de mails suite à ça pour nous demander si son otite allait se soigner un jour. Bonjour, monsieur Djoubaka.
Bonjour.
De quoi on va parler ?
De Luz, du dessinateur et de la musique chez Luz.
Très bien. Beaucoup, 17h30, celui à cause de qui nous sommes dans le viseur du CSA. Il a demandé à Jean Lassalle d'imiter des bruits d'animaux Camoulox.
Non, il l'a fait tout seul.
Bonjour Guillaume
Bonjour
Maurice.
Alex, bonjour Charlotte, bonjour à tous. Moi je me suis promené ce matin dans les rues de Paris avec une question toute bête, mais qui prend tout son sens à la veille d'une élection. C'est quoi être français ?
Nous, on est à la poubelle de l'Europe.
Ah, l'optimisme et la joie de vivre à la française. Et 17h40, celui qu'RMC et RTL ont refusé d'engager, car Éric Brunet et Éric Zemmour ont jugé ses propos beaucoup trop à droite. Bonjour Pablo Mira.
Oui, c'est moi, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un endroit encore plus inquiétant que l'esprit de Jean-Luc Ley dans un concert des Kids United, les prisons françaises. À tout à l'heure.
Et voici celui qui a tout annulé pour nous. Vous participez au développement du théâtre populaire dès les années 60. Vous avez incarné au théâtre Cyrano et Figaro, mais aussi Othello, Henri VIII, Don Juan. Dans votre souci de populariser la culture, vous avez mené une carrière parallèle à la télévision aussi, dans L'Homme de Picardie, les 5 dernières minutes, et vous êtes le père d'Alice Nevers sur TF1. Vous êtes, je vous laisse nous dire qui vous êtes.
Pierre Santini.
Oui, c'est ça.
En tout cas, vous lui ressemblez.
Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
Vous pouviez dire Cyrano aussi. Tellement il vous est associé.
C'est de la peine, c'est le plus important pour moi.
Pierre Santini, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ensemble, on va passer une heure et on va commencer par parler de cette pièce qui s'appelle La Passation de Christophe Maury avec Éric Laugérias, qui est mis en scène par Alain Saxe. On peut vous voir en ce moment au Feu de la Rampe du mardi au samedi à 19h30 et il s'agit de politique.
Exactement, parce que le 9 mai, je pense, eh bien, il y aura passation entre un président et un autre. Hollande ne s'étant pas représenté, eh ben, c'est quelqu'un d'autre qui prendra son bureau et le rideau s'ouvre au Feu de la Rampe avec un bureau de président de la République. C'est vous qui êtes là et vous attendez le suivant.
Eh bien, moi, je viens de perdre les élections.
Exactement.
N'est-ce pas ? Ça va arriver bientôt à quelqu'un. Et donc, ayant perdu les élections, j'accueille celui qui va me succéder, qui lui a gagné.
Éric
Laugérias. Moi, la différence entre lui et Éric Laugérias, la différence entre lui et moi, c'est que moi, je m'en vais un peu dépité, mais je sais tout. Lui, il arrive triomphant, mais il ne sait rien. Voilà. Donc, cette entrevue, qui normalement doit durer un petit quart d'heure, on se passe le code nucléaire, on se passe deux, trois consignes, on montre à les téléphones comment ça marche, va durer un peu plus longtemps parce qu'on a affaire à deux coquins.
Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des détails très pratiques. Vous vous excusez du fait que votre femme ait vaporisé les murs de patchouli.
Je m'excuse pas d'ailleurs, pas, ça me fait rire.
Oui, plutôt ça vous fait rire.
C'est pas moi qui en profiterai, c'est mon successeur.
Profiter est un bon mot. Et puis il y a des choses très importantes, des choses qui sont un mystère pour nous. On aimerait bien savoir ce qui peut se dire à ce moment-là. En revanche, on ne dit jamais qui est quoi. C'est-à-dire que quand Christophe Maury a écrit, est-ce qu'il sait à quel président il fait référence ?
Je ne crois pas. Je crois que ce qui est intéressant, c'est que justement, il n'y a pas un président de gauche et un président de droite.
Non, on n'arrive pas à savoir.
Non,
exactement.
On projette pas très beaucoup. Bien, parce qu'au fond, c'est peut-être pas ça qui est intéressant dans cette pièce. Ce qui est intéressant, c'est le huis clos de deux hommes de pouvoir qui vont disposer ou qui ont disposé du pouvoir suprême. En France, on a une constitution qui est une sorte de monarchisme temporaire, n'est-ce pas ? Celui qui sort a été pendant 5 ans et il avait tous les pouvoirs, il pouvait dissoudre l'Assemblée s'il voulait, mais bon, en réalité, il gouverne plus que le chef du gouvernement. Et celui qui va arriver a des ambitions très fortes de tout changer, veut faire un monde nouveau. Il paraît qu'on va faire un monde nouveau aujourd'hui, alors on pourra en parler. Mais en réalité, il lui manque encore 2-3 petits signes très simples. Il faut qu'on lui remette le grand cordon de la Croix de la Légion d'honneur, il faut qu'on lui remette le code nucléaire.
Puis il veut s'asseoir à votre place au bureau assez rapidement. Et
alors,
non,
je l'assois au bureau, ouais. D'ailleurs, parce que je sais combien c'est. Je lui dis, le premier mandat est un enfer, vous savez, un cauchemar. Le deuxième mandat, c'est formidable parce que c'est lors du deuxième mandat qu'on n'a plus rien à prouver, qu'on sait tout. Mais il y en a peu qui font de mandat quand même.
Est-ce que c'est une pure fiction où il a été interrogé des gens de pouvoir pour savoir comment écrire cette pièce ? Parce qu'il y a plein de moments où je me dis, ben en fait, probablement que ça se passe comme ça. Mais est-ce que c'est moi qui suis d'accord avec l'auteur ou l'auteur qui s'est renseigné ?
Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est un fantasme.
D'accord.
On a envie, quand on pense à une passation de pouvoir à ce niveau-là, et que forcément c'est à huis clos, et que forcément on ne saura pas exactement ce qui s'est fait, ce qui s'est dit, on fantasme, chacun à son niveau, mais chacun fantasme. Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire ? Est-ce qu'ils se sourient ? Est-ce qu'ils sont coquins l'un avec l'autre ?
Est-ce qu'ils se tutoient ?
Est-ce qu'ils se vouvoient ? Or, l'habileté de cette pièce, c'est que je vous vois et je tutoie, et je me laisse vous voyez tutoyer. Le huis clos est public. Donc les fantasmes se développent d'une autre manière. Et moi, tous les soirs, j'ai un plaisir fou à endosser ce personnage et à avoir en face de moi mon successeur, parce que j'entends les vibrations dans la salle.
Exactement.
Et comme ils vont assez loin dans les tentatives de piéger l'autre, parce qu'ils vont successivement se piéger, les gens n'y croient pas, bien sûr, c'est une fiction. C'est le fantasme personnel de Monsieur Maury. Mais en même temps, il dit, mais c'est peut-être, au fond, c'est peut-être comme ça se passe. Mais alors, tu te rends compte et tout. Voilà. ce que nous vivons tous les soirs pendant 1h30.
Tout dépend s'ils se connaissent bien ou pas. Imaginons que si c'est Emmanuel Macron qui succède à François Hollande, ils se connaissent quand même de façon assez intime.
Non, mais si je peux me permettre de vous interrompre.
Je vous en prie.
Ils viennent de vivre une campagne de plusieurs semaines. Mm-hmm. opposés les uns aux autres, donc ils se connaissent bien. Et puis en plus de ça, je veux dire, c'est des hommes politiques, le monde politique se connaît, ils se croisent souvent, des gens pas forcément du même bord, qu'il y ait des rivalités, qu'il y ait des tensions, d'antipathie, etc. Mais il y a aussi une complicité fonctionnelle.
Bien sûr, compétiteur.
Et donc, la campagne, là, la campagne est terminée, on n'est plus dans la campagne présidentielle. Donc on peut baisser un petit peu le masque, on peut un tout petit peu poser son bouclier et puis aller vers l'autre. Mais aller vers l'autre comment ? Pourquoi et comment ?
Et ça, vous pouvez le voir en ce moment au Feu de la Rampe, du mardi au samedi à 19h30. C'est La Passation de Christophe Maury avec Éric Laugérias, mise en scène d'Alain Saxe et avec Pierre Santini qui est notre invité, bien sûr, jusqu'à 18h. Et de pouvoir, il en sera encore question. Car c'est pas que ça nous fascine du tout, mais ça nous intéresse. Vous êtes sur France Inter. Citizens of planet Earth, don't get caught in the cat. Don't drive to distraction. Something behind these walls, something under the sheets. I said, a truth that's been lurking deep down in me. I said, stop. Citizens sur France Inter, programmation musicale de...
Monsieur Tchoubaka.
Ah mais je connais,
mais oui.
C'est celui qui est autour de la table.
C'est l'oreille musicale de France Inter.
Ah là, j'aime beaucoup.
Mais sinon, à part
sinon,
ça...
il y a Guillaume Meurice, oui. Vous avez entendu, ouais. Et Pablo Mira concentré. Ah, parce que lui,
bien sûr, pour lui... entourer Pierre Santini, notre invité, jusqu'à 18h, qu'on peut voir au théâtre en ce moment, au Feu de la Rampe, dans La Passation. On va se remettre d'équerre sur l'actualité tout de suite.
C'est parti.
Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train.
Vous mentez. Le journal de presque 17h17.
Ça vous reprend.
C'est un mensonge.
Et on commence par les titres.
Emmanuel Macron attaque Jean-Luc Mélenchon. Il était sénateur, j'étais encore au collège.
Et Brigitte d'ajouter, et il n'était pas encore dans mon lit, c'est vous dire.
François Fillon invite les journalistes agressés à son meeting à se poser des questions.
Mais oui, la première question qu'ils se sont posées, c'est doit-on s'inscrire à des cours d'arts martiaux ?
Et des brèves ?
Bien sûr, je ne céderai pas.
On commence par un petit cadeau à nos auditeurs.
Oui, le monde va mal, les gens sont inquiets, les catastrophes se multiplient. Il fallait donc que ça arrive.
Francis Lalanne a écrit une nouvelle chanson.
Mais oui, mais pas n'importe laquelle. Hier, il était en visite sur le plateau du Petit Journal de Canal+, et il a parlé de son projet fou.
J'aurais très envie de réécrire des paroles à la Marseillaise qui soient plus conformes à mon idéal. Allons enfants. De la patrie, Notre idéal, c'est de lutter.
Chewbacca est à deux doigts de l'AVC. Venons-en à la politique.
68% des Français ont maintenant une opinion favorable de Jean-Luc Mélenchon.
C'est le tournant. On ne savait pas s'il avait vraiment ses chances, mais là, les sondages le donnent favori. C'est foutu pour Jean-Luc Mélenchon.
Affaire des assistants parlementaires FN au Parlement européen, eh bien, l'assistant de Louis Alliot aurait été payé 31 000 euros alors qu'on ne retrouve pour trace de son travail qu'un SMS.
31 000 euros un SMS?
Ah, c'est bien payé. Hein,
oui, mais Pénélope Fillon, elle va peut-être demander à la revue des Deux Mondes qu'on réévalue le prix de ses fiches lecture. Parce que...
Dans nos campagnes, qu'on voit venir le monde entier.
C'était pas fini.
Dans l'amitié.
Société, à présent, hier, l'Association des paralysés de France a organisé une marche citoyenne.
Belle prouesse, déjà.
Certes, et qui s'y est rendu? Eh bien, Nicolas Dupont-Aignan.
Oui, et quand il a dit aux paralysés « Debout la France », ça a dû faire un énorme carton, ça.
Roger Karoutchi, sénateur LR des Hauts-de-Seine, a été victime d'un cambriolage. Les voleurs sont repartis notamment avec une bague à 2000 euros, un médaillon à 3000 et 5 montres, dont 2 Rolex. Le préjudice total est estimé à plus de 26 000 boules.
Là, je pense que s'il veut se refaire, il devrait tenter d'envoyer un SMS à Louis Alliot.
Chaque maillon.
Il a bossé quoi. Il est
pas bon. Ah oui, oui.
C'est... A priori, là, je pense que c'est fini. Non, je crois
bien,
que c'est la bonne.
Économie. Une étude confirme que la France fait partie des pays où la pression fiscale sur les salaires est la plus élevée.
Voilà, une étude que ne cautionne pas Thomas Thévenoud.
Ah, vous avez des nouvelles de Thomas Thévenoud?
Oui, oui, oui. Il est de retour sur les bancs de l'université. Comme il l'annonçait il y a peu, il veut tourner la page.
Ah, connaissant sa phobie administrative, c'est sûrement la première page qu'il a dû tourner, mais.
C'est évident, il veut clairement arrêter la politique.
Ah, et alors il étudie pour devenir quoi?
Avocat.
Ah, bah donc il restera en contact proche avec les politiques.
Voilà, quand même, il se rapproche. Ouais. L'idée brève, des brèves.
Auvergne, 2 points.
Oui.
Il meurt noyé en tondant la pelouse.
Oui, et ça, c'est quand il a voulu tondre le lac que ça a posé un problème.
La dernière?
Oui, à Espaly, elle surprend son cambrioleur devant des œufs au plat. Et sur son compte Facebook, la police nationale de la Haute-Loire a promis de retrouver l'individu pour lui présenter l'addition des œufs.
Ça n'arrête jamais.
C'est le refrain,
je pense.
Ouais. Ah oui,
il y a un swing derrière.
Ah ouais.
C'est la
WC. Pas sûr que Benzema va la chanter. Voilà. C'est fini.
C'est la
chaîne. C'est la quoi, il dit?
C'est la chaîne L'Union.
C'est la chaîne L'Union, bien sûr.
Il met des mots. Il met des mots, il met des mots.
Et nous, on a swingé avec Pierre Santini.
Voilà. Qui est avec nous. Qui a bien aimé Francis Lalanne.
Je sens que oui, vous avez beaucoup aimé.
Mais vous chantez une nouvelle Marseillaise?
Ah, essayez, allez-y. On aborde ce premier sujet
Andiamo
avec vous.
Andiamo ragazzi bien... della patria. Ah.
C'est le franco-italien qui parle, évidemment. Il y a une nuance de taille entre voter pour désigner un chef et... élire un représentant. Dans le premier cas, on marque une forme de déférence envers le politique. Dans l'autre, on lui rappelle qu'il exerce un mandat destiné à nous représenter. Dans un cas, on est des veaux. Dans l'autre, on risque un peu moins de le devenir.
Hé, regardez-vous! Et regardez autour de vous! Mais oui, mes frères, ils vous ont baisé la gueule! Et en beauté! Ouais. Pour pas un rond, ouais. Cette bande de porcs,
ouais.
On n'est pas chez nous dans la forêt de Sherwood. C'est la forêt de Sherwood qui est chez nous. Voilà la vérité,
ouais. Ouais.
Sacré Robin des Bois, film de Mel Brooks. Alors, on se trouve face à des hommes politiques qui, clairement, abusent de leurs privilèges. On le voit avec François Fillon, on l'a vu avec Bruno Leroux qui avait employé ses filles. Entre autres, bien sûr. Ça vient bien de quelque part. Est-ce que, outre la faute politique, est-ce que le citoyen, il a aussi une part de responsabilité? Est-ce que le citoyen est parfois trop révérencieux par rapport aux politiques? Est-ce que...
Bon, il est à la fois très révérencieux et irrévérencieux en France. C'est ce qui fait la qualité d'ailleurs de ce peuple. C'est qu'on sait être irrévérencieux avec nos hommes de pouvoir et nos femmes de pouvoir. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a une petite complaisance, un peu entretenue d'ailleurs par les médias, par la presse, par les intellectuels, et tout ça, une sorte de complaisance à vouloir... sous couvert de révérence, comme vous dites, peut-être leur donner plus la parole qu'il ne faudrait, et peut-être pas toujours dans le sens où il le faudrait. Moi, je suis peut-être d'une vieille génération, mais
Je pense qu'il y a des formes d'irrespect, des formes de familiarité, des formes de d'humour et de plaisanterie. Et je suis un grand fan de l'humour, mais qui quelquefois modifie un petit peu le regard qu'on porte sur la politique. Et comme c'est amusant, ben on plonge dedans. Mais ça ne donne pas forcément les meilleurs regards qu'on pourrait avoir sur notre avenir, parce que c'est là.
Est-ce que c'est pas accuser le plâtre alors que le mal il est ailleurs? C'est eux qui nous donnent aussi le bâton.
Alors eux ils en profitent. Ils ont découvert que par les médias on touchait facilement les électeurs. Ça date pas d'il y a 5 ans ni d'aujourd'hui. C'est beaucoup plus vieux que ça. Ça a commencé beaucoup avec la Ve République où tout d'un coup il fallait dégager une personnalité forte. Alors je crois que dans l'esprit du général de Gaulle, c'était un homme ou une femme d'exception, un peu au-dessus de la mêlée. Hier, il y avait j'entendais sur une radio voisine quelqu'un ou ce matin, je crois, qui disait il faudrait élire un sage. Bon, mais aller trouver un sage. Deuxièmement, aller trouver des partis qui vont soutenir un sage.
On n'aura pas des sages. Est-ce qu'il ne faudrait pas juste élire un représentant, en fait, et
parce que c'est un peu plus que ça. Il faut changer de constitution.
Voilà,
mais dans la constitution telle qu'elle est prévue, elle suppose quand même de donner tellement de pouvoir à une personne.
Et oui, c'est ça qui est compliqué.
Que c'est très compliqué. Alors, personnellement, je ne sais pas si j'ai le droit d'exprimer mon opinion personnelle.
Vous êtes complètement,
je suis favorable.
Le citoyen Pierre Santini,
je suis favorable à un changement de constitution. Elle a très bien marché avec le général de Gaulle, elle a très bien marché une ou deux fois avec des personnalités très fortes, et à des moments où la vie politique et sociale et économique le permettait, et puis il y a des moments où c'est n'importe quoi, comme ce que nous vivons aujourd'hui, où on va se retrouver dans des situations, soit de candidatures extrémistes qui vont s'affronter, soit avec des candidatures du même bord qui vont rejeter plus de la moitié de la population. C'est absurde tout ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense très très sincèrement qu'il faudrait se pencher sérieusement sur une constitution 6e qui permettrait, avec un peu plus de proportionnel, avec un peu plus d'ouverture aux représentants du peuple, parce que c'est important d'être le représentant du peuple et d'avoir son mot à dire, qui donnerait un peu plus de place au collectif élu, et qui en même temps, tout en gardant une certaine prépondérance à celui qui est au-dessus de la mêlée, permettrait au chef de gouvernement de gouverner seul avec ses ministres et sans avoir sans arrêt à prendre référence avec le président de la République, qui n'est pas là pour ça, je pense.
Eh ben voilà, une vision claire par Pierre Santini.
Santini 2017.
Effectivement. Et je renvoie à votre édito Guillaume Meurice dans Ciné Mensuel en ce moment en kiosque. Et je renvoie aussi sur Slate.fr où l'historien Michel Vinocq explique que les Français élisent un roi pour le décapiter et que ça n'a toujours pas changé. Il dit il existe une religion de l'État, le président de la République l'incarne. Voici quelques références. Et Djoubaka est avec nous. Là, on parle musique.
On parle musique et on parle d'un dessinateur qui parle de musique. Donc, c'est Luz. C'est un dessinateur que beaucoup d'entre vous connaissent parce qu'il a laissé quelques chefs-d'œuvre en bande dessinée. Il s'est attaqué à des couples mystiques et mythiques comme les Maigret et les Sarkozy. Mais on a pu suivre aussi tous ses dessins dans Charlie Hebdo jusqu'à son départ il y a presque 2 ans. Bref, Luz, c'est quand même un auteur avec un trait hyper volcanique qui pourrait dessiner un singe qui tombe de 3 étages sans une seule fausse note ni un faux coup de crayon. Et à côté, il a une passion absolument incroyable pour la musique. Et depuis ses débuts, ses tout débuts, avant qu'il soit connu, on a vu des planches de BD parler à la fois des concerts, des gens qu'il rencontrait et de sa vie, en fait, d'amateur de musique. Et moi, Luz, c'est le seul mec que j'ai vu en concert, coincé entre la fosse et les barrières et le groupe, en fait, que se coltiner et dessiner avec les photographes et commencer à dessiner ce qui se passait sur scène sur les 3 premières chansons en général, voilà. Après, il revenait dans le public où il allait au bar, comme tout amateur, qui se respecte, voilà. Alors, les éditions Futuropolis, elles viennent de sortir au live, jeu de mots, à l'intégrale de ces chroniques dessinées, ce soit un pavé de 400 pages, qui retrace 20 ans, en fait, de cette passion de la musique, mais c'est surtout quelqu'un qui a le bon goût, en fait, d'avoir un goût extrêmement large et qui va aussi bien aller dans des concerts de rock, de noise, que passer beaucoup de temps la nuit sur le dance floor à écouter de la musique électronique. Alors là, il est vraiment dans une position de journaliste un peu gonzo, c'est-à-dire qu'il raconte aussi ce qui se passe autour de lui, le public, les attitudes qui changent, le business aussi de la musique qui change. Bon, on va commencer par le commencement. Alors très vite dans ce livre, on le voit avec ses parents, qui sont des gros consommateurs de décibels et qui se tiennent vraiment au courant et qui imposent à leurs rochons toutes les dernières nouveautés. Et il a visiblement biberonné sévère avec ça à la maison, et en voiture tout l'été, il se faisait 3000 bornes aller-retour avec le son à fond dans la caisse, quoi. Et je pense que l'environnement, en fait, familial lui a donné quand même un regard assez particulier pour ce qui se passe autour des groupes et du public. Car tous les gens qui font plus de 50 concerts par an, en fait, vous le diront, des fois, le spectacle, il est pas sur scène, il est dans la salle. Et en effet, Luz aurait pu croquer Alex Vizorek à genoux, les bras en croix, bon, lors du dernier concert de son idole Michel Thor. Hein, Alex, les larmes coulant sur ses joues comme un flot ininterrompu de bonheur. Cette chaude larme venant inonder son t-shirt collector de Daniel Guichard. Oui, il aurait pu dessiner ça. Et il a fait autre chose. Et on a dans cet album des bribes, en fait, de ces moments très particuliers. Par exemple, on est au festival Astropolis, où il a vu danser un mec à poil avec des Santiago Rose. On se souvient avec lui d'un, bah, pas avec nostalgie, d'un concert de Queen où il a vu un couple forniquer à ses pieds quand il avait 14 ans. Il dessine pendant le Hellfest des gars qui ont porté pendant 3 jours un slip sur leur tête. Il nous rappelle ce moment où il a été interdit de fumer dans les concerts. Et qu'à New York, une loi interdit dorénavant aux gens de danser dans les bars. Il rappelle que quand on veut devenir DJ et que l'on cherche du boulot, il faut dire « je mixe comme un œuf, mais j'ai 80 potes alcooliques qui adorent ». Et là, c'est dans sa poche, fin du chômage, adieu Pôle emploi. Alors, grâce à lui aussi, vous découvrirez comment transformer un camp de scouts en véritable festival électro-rock. C'est vrai, c'est un rêve vaticanesque, mais qui a existé. Vous apprendrez qu'on peut enregistrer une chanson dans un mini-studio installé dans le coffre d'une voiture. Et vous vous souviendrez de ces grands moments de solitude, pour moi ça parle, où l'on essaye de convaincre nos amis que le disque de hardcore mélodique qu'on a dans la poche est le meilleur du monde, voire de l'univers. Bref, il y a un inventaire un peu à la Prévert dans ce pavé, là, Live de Luz. Et c'est surtout un instantané aussi de son goût, mais aussi de l'actualité de la musique des 20 dernières années. Alors, la préface du livre, c'est un dialogue entre lui et Philippe Manœuvre. Ils sont un peu bougons, un poil ranchons. Ils disent, ouais, la disparition du rock, comme une énergie populaire et rebelle. Mais à la fin, il ne résiste pas. Il nous donne un petit conseil musical, c'est-à-dire le groupe dont ils ont vraiment envie qu'on parle et qui représente le rock'n'roll aujourd'hui. Ça s'appelle Twin Peaks, Alex ne cherche pas le film. C'est un groupe de musiciens et c'est des gens bien comme il faut qui chantent Making Breakfast.
Ouais, ouais.
C'est pas bah, de rien, éditions... hein, c'est Luz qu'il faut dire merci.
Ouais, merci Luz, édition Futuropolis.
That's right, but don't let it get you down.
Making Breakfast, on était parti de l'album de Luz, Alive, chez Futuropolis, présenté par Djoubaka. Et Djoubaka, en ce moment, vous avez une expo aussi.
Ouais, mais bon, on peut dire, fait du temps, là. Hein, allez, 29 rue de Charonne.
Ouais.
Ouais, il y a de la gramophozone dans une semaine, si vous voulez entendre du mix, du mix sur 78 tours, c'est là que ça se passe.
Il y aura de la nourriture ou pas?
Pas du tout.
29 rue de Charonne à Paris, et Pierre Santini, lui, il est au théâtre, dans La Passation, au feu de la rampe, du mardi au samedi.
Non, alors justement.
Ah, c'est ça.
Je voulais corriger, vous aviez raison, et vous n'avez plus raison. Car nos producteurs nous font jouer maintenant le jeudi, vendredi, samedi à 19h15 et le dimanche à 16h.
Voilà.
Parce que ça manquait sérieusement de... Moi, j'allais me reposer le dimanche, mais maintenant, je ne pourrais plus.
Ah bah maintenant, il faut y aller, parce que justement, La Passation, c'est politique. On entre dans l'antichambre du pouvoir.
Exactement.
Avec Éric Laugérias et Pierre Santini, qui est avec nous jusqu'à 18h. Et à côté de vous, Pierre, il y a Guillaume Meurice.
Oui, bah, dernière ligne droite avant le vote final. Tous les candidats font leur maximum pour nous pécho. Quand ils disent « Française, Français », nous, on entend « Petit, petit, viens hein ». On a tous l'impression d'être des enfants de cœur au Congrès des évêques de France. C'est très gênant. Et moi, je me suis posé une question toute bête, c'est quoi être français? Alors voilà, parce que être belge, ben, on sait ce que c'est,
hein,
c'est mettre des réponses dans des questions, par exemple, hein, c'est chercher les brèves dans Yahoo Insolite, on le sait, mais être français, on ne sait pas, hein, finalement, qu'est-ce qui nous réunit? Alors, ben, je suis allé demander aux gens, hein, tout simplement, qui se considèrent français. On commence avec un premier français.
Ah. Moi, je fais ma vie et mon chemin, c'est tout.
Ah.
Ouais, ouais, voilà.
Alors du coup, vous n'avez pas une idée de ce que c'est d'être pour vous, ce que ça veut dire être
français? Non, allez vous faire foutre.
Ah, ça, voilà. C'est typiquement français. Ah, la cordialité, c'est vrai que c'est une première piste, mais ça peut pas suffire hein, pour définir un français, sinon Joey Starr serait président de la République. Alors, je repose ma question à un autre citoyen. Être français, c'est quoi?
D'abord, tenir compte des lois qui sont dans le pays, quoi. Enfin, des lois qui gèrent le pays.
Alors ça veut dire que Patrick Balkany n'est pas français, par exemple?
Comment ça?
Bah, il respecte pas vraiment les lois, du coup.
Bon, respecte pas les lois, ce n'est pas à l'être. Mais enfin, disons quand même, les lois, je veux dire, lois et coutumes, quoi.
Ah, alors là, c'est bon. C'est vrai qu'il respecte les coutumes, Patoche, celles de Levallois. Hein. Bah, alors ça, c'est être français et faire de la politique dans les Hauts-de-Seine. Hein, c'est pas non plus ce qui peut nous définir dans la globalité. Alors, on continue à chercher. Allez, qu'est-ce qu'être français?
Je pense que d'être français, c'est tout simplement de parler français.
Ah.
C'est ce qui fait une très grande communauté.
Voilà. Mais alors, ça veut dire que Franck Ribéry, il n'est pas français, par exemple.
Si, parce que je pense qu'il faut être très tolérant. C'est-à-dire que peut-être que ce qui est bien dans le langage de Ribéry, c'est que ça fait marcher l'imaginaire.
Ah, ça c'est sûr. Non, mais c'est vrai, il fait évoluer la langue française, hein, qui est vivante, hein, il a raison. Il fait évoluer la syntaxe, Franck Ribéry. Peut-être qu'un jour, à la place de la clause Molière, il y aura la clause Ribéry. Hein, on ne sait pas. Comme on dit en Ribéry, la roue tourne va tourner, certainement. Mais si être français, c'est seulement parler français, alors Lara Fabian serait française. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Il faut donc continuer à chercher être français. C'est quoi?
On est admis par son comportement, le sens du travail, la morale.
Ça, c'est le comportement français, ça?
Oui.
Le sens du travail et la morale?
Oui.
Alors moi, je connais pas mal de Français qui respectent pas ça, quand même.
Bon, bah, c'est des mauvais Français.
Ah,
mais ils sont Français tout de même.
Ah, ils sont quand même Français.
Oui.
Ah, bah, donc, alors, ça suffit pas, alors?
Qu'est-ce qui suffit pas?
Ça suffit pas d'avoir un bon comportement?
Non, mais il y a des bons Français et des mauvais Français. Il y a des bons musulmans et des mauvais musulmans.
Alors, oui, attends.
On y vient.
Je vois où tu veux en venir. Hein. Je pense que cette dame veut parler de Faudel. Hein. Je pense, voilà. Alors, on va pas s'engager là-dedans. Hein. Pareil pour les bons et les mauvais Français. On est en pleine polémique là, avec le Veldiv. Marine Le Pen est à deux doigts de nous expliquer que le projet, c'était d'emmener des Juifs faire du vélo. C'est hyper compliqué comme sujet. Tiens, puisqu'on parle d'histoire.
La France, pour moi, c'est un package. On adhère à son histoire, aux valeurs communes qu'on a, liberté, égalité, fraternité.
Est-ce qu'Éric Zemmour, il est français, du coup?
Mais bien sûr.
Pourtant, il n'est pas tellement fraternel.
Mais c'est pas grave.
Ah bah alors, il respecte pas.
Mais non, mais il est quand même français.
Mais oui, mais du coup, ça marche pas. Hein. Sinon, Zemmour, faudrait l'expulser dans son pays. La xénophobie, allez hop, en charter. Parce qu'il respecte pas du tout la devise de la République. Alors, on continue.
Bah, être français, c'est aimer le pays où l'on est. C'est tout.
Ça suffit pour vous, être français?
Bien sûr, ça suffit. Il faut l'aimer.
Alors, ça veut dire qu'un Syrien qui est en France en ce moment et qui aime la France, il est français?
Alors, pourquoi vous prenez un Syrien? Il n'y a pas de raison.
Non, mais je veux dire un étranger.
Bon, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas pousser trop loin.
Ben voilà, mais oui, il faut pousser jusqu'où, hein. C'est compliqué de doser le poussage. Hein. Est-ce que c'est normal qu'un étranger qui vit en France depuis longtemps et qui paye ses cotisations ne puisse pas voter? Est-ce que c'est normal que le vote de Francis Lalanne ne compte pas double, hein, comment il se défonce quand même pour la patrie? Ça pose plein de questions. Mais alors attention, être français, ce n'est pas tomber dans l'angélisme.
D'ailleurs, c'est pour ça que Mme Le Pen est là, pour nous le signaler. Il y a des choses qui sont réelles, qu'on ressent en regardant la rue. Moi, je pars de Paris, justement, parce que j'en ai marre de voir ça. De voir des Roms qui... Enfin, tout ce qui se passe là. L'autre jour, je suis Faubourg Saint-Honoré. Je vois pas trois groupes de jeunes filles Roms, mais avec une agressivité, j'ai jamais vu ça. Mais je dis pas ça d'une façon mauvaise.
Oui, être français, c'est aussi dire des choses d'une façon pas mauvaise, mais quand même qui pue un peu du cul. Parce que être français, c'est surtout constater que dans le pays des Lumières, il serait peut-être temps de remettre le courant.
Guillaume Meurice, merci Guillaume. Nous sommes en compagnie de Pierre Santini. Il nous accompagne jusqu'à 18h. On va aborder ce deuxième sujet avec vous. Le camp de Grande-Synthe est en cendres. Il accueillait des réfugiés dans des conditions peu plus décente qu'à Calais, grâce à son maire et à Médecins du Monde qui avait conçu un camp répondant au minimum des normes humanitaires. Imaginez un peu si la France avait décidé de bien s'organiser véritablement pour l'accueil. Même en cas de catastrophe, dans les pires conditions climatiques, eh ben, ça aurait pu se passer comme ça.
S'il vous plaît, les cases portant des noms de fruits de mer, genre huîtres, palourdes, bourrelets. Tout ça par là-bas et quand vous me suivez.
Oh, il a bien.
Allez, mais c'est meneur, ça rigole, ça rigole.
Oh, bah c'est le bouquet, j'ai la case boue.
Mais moi, je vais tomber la cheville. C'est où la case Bigorneau?
Quoi?
Bigorneau, c'est où?
Y a pas Bigorneau, ça doit être Bigaro, si ça se trouve. Mais alors, ça, c'est de l'autre côté du village, c'est carrément...
Occupé! Hey, ma case est occupée, qu'est-ce que je fais?
Mais non, ça, c'est les solitaires, ça.
Voilà, si ça s'était bien passé, on aurait pu en rire avec les bronzés, bien sûr. Alors, donc, les conditions de vie dans le camp humanitaire se sont largement dégradées, surtout quand le camp de Calais a été évacué, qu'il y a eu un afflux massif, encore plus massif de réfugiés, qui se sont retrouvés à 5 dans une cabane de 7 mètres carrés, promiscuité, maladie, etc. Bref, le camp a été incendié. Quelle réflexion ça a déclenché chez vous, Pierre Santini, quand vous avez appris l'information de cet incendie qui a ruiné les effets du maire de Grande-Synthe qui, malgré qui contre l'État, etc., il est allé tout seul avec Médecins du Monde pour construire ce camp et en faire au moins un minimum décent humanitaire.
Ben, je pense que ça a été conçu au départ comme quelque chose d'un peu mieux que ce qu'il y avait à Calais. Et si Médecins du Monde ou Médecins sans frontières?
Alors, moi je pense que c'est Médecins du Monde, mais l'humanité dit Médecins sans frontières. Mais
je ne sais plus, enfin bref, ouais. Pas l'humanité.
Robert Ménard n'y est plus pour rien.
Enfin, mais bref, c'était Reporters sans frontières.
Si cette association et cette ville se sont mises ensemble sans que l'État intervienne au départ pour construire ce camp, peut-être qu'ils n'ont pas pensé que le construire en bois pouvait représenter certains dangers. Il fallait peut-être prendre comme au théâtre du bois inifugé. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, ça suscite cette réflexion pour moi. La première réflexion, c'est que je pense qu'on vit une période qui n'est que le début d'une longue période et qu'il va y avoir des grandes migrations. Et d'ailleurs, l'histoire de l'humanité est une histoire de grandes migrations. Mais ne serait-ce que la France, on a connu des migrations colossales, les Visigoths, les Ostrogoths, les Vandales, les Huns, les Celtes et tout ça. Donc, après, on va sûrement avoir, à cause du réchauffement de la planète, à cause des conditions économiques...
Et de la famine dans la corne de l'Afrique en ce moment, Somalie, Soudan, Yémen... Autres,
des migrations du centre de la planète vers les extrêmes, vers le sud et vers le nord. Mais là, ce qui nous concerne, nous, c'est vers le nord. Il y va falloir vraiment réfléchir, et peut-être que les hommes politiques ont une vraie responsabilité, parce que pour moi, avoir le pouvoir, c'est pas exercer sa puissance sur les autres, c'est exercer des responsabilités. Et une des responsabilités majeures des hommes politiques dans ce domaine-là va être de prévoir ou des structures d'accueil, ou de prévoir avec les autres pays d'Europe et avec les autres pays riches, une manière d'accueillir ces migrations.
Alors on l'a déjà pas fait, alors qu'on sait que ça va s'aggraver.
Eh bien, je pense qu'il va falloir le faire et il va falloir y réfléchir sérieusement parce que sinon on va connaître des grandes tragédies.
Vous êtes moins cynique que votre personnage sur scène.
Je suis moins.
Moins cynique que votre personnage sur scène.
Ah oui, je suis
parce
pas très cynique.
Lui, il lui reproche, il lui dit je n'aime pas votre cynisme. Et vous avez l'air d'avoir.
Mais je fais le cynique devant huis clos.
Mais je sais.
Quand il est président. Non,
pour embêter mon challenger.
Mais je sais.
Non, je suis pas cynique du tout. Je suis très préoccupé. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. J'ai un certain âge. Je laisserai dans quelques dizaines d'années, j'espère, la planète à d'autres. Je voudrais que cette planète soit vivable et que les sociétés humaines trouvent entre elles le moyen de vivre ensemble bien. Donc il faut résoudre, comme vous disiez, les problèmes de la famine. Il faut résoudre les problèmes du réchauffement planétaire et de l'écologie. Il faut résoudre les problèmes des systèmes autoritaires qui dégradent complètement l'esprit démocratique qui tente vainement de se survivre dans ce monde, etc.
Eh bien,
etc.
Santini 2022, même. C'est parti, avec vous. On sera derrière vous, Pierre.
Si je restais jusqu'à la fin du
Allez, il est 17h46, l'heure d'accueillir notre éditorialiste tout juste auréolé du prestigieux prix Pulitzer pour son enquête sur les Ranuta Papers, ce scandale d'évasion menstruelle à grande échelle au Panama. Pablo Mira, Pablo, vous revenez sur la colère du personnel pénitentiaire qui se plaint de ses conditions de travail déplorables.
Merci Charline, vous l'avez donc peut-être vu, c'est donc le chaos à Fleury-Mérogis avec le blocage de la prison par les surveillants suite à l'agression de 6 agents et cette grogne. Elle fait froid dans le dos, on l'écoute.
Mais est-ce qu'on pensera Mélenchon jusqu'au bout? C'est une intéressante question.
Pablo, c'est un extrait de Jean Lassalle, je crois.
Oui, je sais, Charline, mais j'ai pas trouvé l'extrait que je voulais, alors j'ai pris le son qui ressemble plus à un grognement d'animal blessé. En tout cas, cette grogne, elle est bien réelle, mais un peu exagérée, si vous voulez mon avis, Charline. Les surveillants se plaignent de se faire insulter, cracher dessus, frapper. Oui, mais c'est le job, ça. C'est le job. Même si je comprends, c'est pas marrant d'être traité comme un journaliste dans un meeting de François Fillon. Puis excusez-moi, petit rappel, il y en a qui payent pour ça, comme par exemple Alex, tous les samedis soirs au donjon de maîtresse Cindy à Paris. Charline, moi je dis à nos amis qui travaillent dans les prisons, il faut savoir relativiser. Oui, la situation s'est dégradée et peut-être bien qu'elle est explosive, hein, comme on l'a décrit, mais elle est loin, très loin de ce qu'elle sera dans 10 ans. Après, je travaille pas, elle a mis du temps celle-ci, Charline, visiblement. Après, je travaille pas en prison, hein, je suis éditorialiste, donc je suis mal placé pour affirmer si c'est vraiment l'enfer ou pas dans les centres pénitentiaires. Le mieux, vous savez quoi, c'est de poser la question à ceux qui sont sur le terrain. Et d'ailleurs, Philippe est avec nous au téléphone. Philippe qui est surveillant pénitentiaire à Bois d'Arcy. Salut Philippe!
Ouais, excuse-moi Pablo, je vais pas pouvoir te répondre, là, il y a les trucs qu'on fait un foot, là, ça a chauffé.
Oula.
Philippe, c'est un T-Rex qu'on vient d'entendre derrière
toi,
là?
Ouais, c'est un nouveau détenu qui est en train de s'embrouiller avec les latinos du bloc D2, là.
Ouais, bah très bien Philippe, écoute, je vais pas te déranger plus longtemps, je vais te laisser maîtriser ce dinosaure tranquillement, ah, on te rappelle plus tard.
Ouais, bonne émission Pablo.
Ouais, merci. Vous voyez, Charline, un peu de chahut, mais rien d'alarmant à mon sens. Je trouve même d'ailleurs, personnellement, que la situation va en s'améliorant. Et j'ai pas peur de dire que nos prisons, elles font un boulot formidable sur le plan humain. Les prisonniers ont tout à leur disposition. La télévision, les jeux vidéo, les livres, le choléra, tout. Moi, je vous le dis, je comprends même pas pourquoi ils se plaignent, les détenus. La plupart adorent tout ce qui est bling-bling. Alors, ils devraient être contents de n'avoir qu'à se baisser pour ramasser un petit staphylocoque doré. Alors, c'est vrai que les prisons en Ile-de-France, hein, ce sont les chiffres. Les prisons en Ile-de-France sont saturées. On parle d'un taux de remplissage de 201% à la maison d'arrêt de Villepinte. Et c'est vrai que ça fait pas mal. C'est quand même le score d'Ali Bongo aux dernières élections présidentielles du Gabon. Pour moi, je veux dire, le vrai problème, c'est pas tant les prisons. Le problème, pour moi, c'est évidemment la gauchosphère de gauche qui nous rabâche les oreilles à longueur d'année avec le fameux « il faut prendre exemple sur les pays scandinaves, il faut prendre exemple sur le Danemark ». Laissez-moi vous dire une chose sur le Danemark. En matière de prison, je ferai confiance au Danemark quand ils arrêteront de penser que Rosenkrantz, c'est un prénom. Je vais vous dire, Charline, la solution, pour moi, elle est simple. Faut moderniser les prisons, faire des travaux, augmenter des places et même créer de nouveaux centres pénitentiaires flambant neufs. Voilà, Charline.
D'accord, enfin, ça, Pablo, ça coûte de l'argent, tout ça.
Oui, mais je sais bien, Charline, mais je veux dire, c'est absolument nécessaire. On ne peut pas s'en passer.
De l'argent du contribuable, donc vous. Oui.
Ah, mon argent, oui, bon, bah, c'est vrai, je me suis peut-être un peu emballé, Charlie, autant pour moi. Et puis, il y a conditions inhumaines et conditions inhumaines.
Ah, oui, attendez, désolé, mais enfin, là, vous dites tout et son contraire aussi.
Oui, bah, oui, je sais, Charlie, mais Macron, il va se faire élire comme ça. Donc, moi, je pense que si je continue comme ça, allez, la semaine prochaine, je dirige France Inter. Pour conclure, moi, je veux bien entendre les phrases du genre, il faut qu'on ait des prisons dignes de notre pays. Mais moi, je pense que ça nous coûtera quand même moins cher d'avoir un pays aussi indigne que nos prisons. Allez, salut Charlie.
Pablo Mira, merci, sur France Inter. Vous pouvez le revoir sur franceinter.fr.
Oui, parce qu'il est beau, en plus, Pablo.
Parce qu'il est extrêmement
beau. Ah, c'est photoshopé, tout ça, Guillaume. Vous êtes si naïf.
Un beau costume d'éditorialiste de droite. Pierre Santini, on va aborder avec vous ce dernier sujet. Les serveurs dans les cafés parisiens sont les premiers ambassadeurs en France auprès des touristes. Mais ils sont réputés très désagréables. C'est peut-être bientôt terminé. Certains gérants commencent à opter pour un management à l'anglo-saxonne. Alors que servir français et sourire, pardon, mais ça s'apprend aussi.
N'oubliez pas qu'ici, vous êtes dans la cuisine. Et au-delà de cette porte, c'est la salle. Et dans la salle, il faut servir. Et servir, c'est sourire. Et le sourire, c'est notre pourboire aux clients. Voilà. Alors, donnez-moi ça, je vous montrer. Bon, alors maintenant, mon petit Roger va nous montrer comment il faut faire. Là. Alors, vous avez des ennuis. Il faut servir. Souriez et partez.
Le grand restaurant. C'est un article à lire dans Libération qui nous explique que le management à l'anglo-saxonne pourrait régner bientôt sur la façon dont
vous
les
voulez
serveurs...
dire la courtoisie.
L'hypocrisie,
alors,
très exactement.
Ça va un peu plus loin que ça, on va y venir. C'est aussi le fait que chez les anglo-saxons, et notamment chez les Américains, on est payé au tip, au pourboire.
Ah, oui.
Et donc il faut sursourire pour être sûr d'avoir de gagner sa croûte. Alors que rappelons que c'est quand même un métier pénible et souvent devenu précaire en France. Qu'est-ce qu'on fait, Pierre Santini ? Est-ce qu'on oblige nos serveurs à être aimables ? Ou est-ce que c'est une exception culturelle française et on inscrit la mauvaise humeur au patrimoine immatériel de l'humanité pour préserver cette particularité ?
Je vais jeter un pavé dans la mare.
Oh, allez-y, allez-y. Attention.
Je pense
moi,
que je vais être d'accord.
Je ne trouve pas que les serveurs des bistrots parisiens soient désagréables. Je suis toujours très, très... J'ai pas envie qu'on me sourie sur commande pour avoir un tip, comme vous dites. J'aime bien qu'on me serve vite et bien, et que surtout que le prix soit pas trop cher, et puis c'est tout.
Ah, ouais. Là, par contre,
si je dis bonjour, qu'on me réponde. Si je dis pas bonjour, si on me répond pas, c'est pas grave. Mais moi, je ne suis pas... Je trouve pas l'amabilité... Je vois les taxis, par exemple, aujourd'hui.
Ah, j'allais vous faire la...
Les taxis, aujourd'hui, depuis qu'ils ont de la concurrence, de la société privée, etc., qui ne répondent plus aux normes du compteur normal, etc., les taxis, alors, mettent la cravate, ils sourient...
Vous pouvez dire du mal, ils écoutent RMC, hein, de toute façon.
Bon, bien sûr, t'es agréable, mais moi, ce que je veux, c'est un taxi, c'est qu'il me conduise vite et bien, et sûrement au point où je dois aller.
Vous voulez pas des bonbons et des bouteilles d'eau?
Non, enfin, vraiment, ça me fait culotter. J'ai envie que le service soit rendu bien et sans
excès dans l'un sens ou dans l'autre.
Sans tomber dans une espèce d'amabilité de commande ça, qui ne m'intéresse pas du tout. Je viens pas pour
le
voir là.
Moi, j'ai constaté que c'était que le serveur français était sympa avec le client français parce que de toute façon il savait que l'autre allait lui répondre de manière dans la même genre de communication. Mais parfois il n'est pas sympa avec le touriste qui lui en fait trop, qui sort ses guides touristiques sur la table et tout. Et à ce moment-là, il lui tire la gueule.
Oui, si elle répond, s'il n'a pas le temps, évidemment, si quelqu'un l'occupe trop de temps par rapport à ce qu'il
c'est
a
ça.
Fait, il faut voir aussi combien ils sont derrière le bar, combien ils
qu'est-ce
sont à servir.
Qu'est-ce que c'est, andouillette?
Je vais vous dire, les premiers responsables, c'est les clients français. Eux ne sont pas souvent, se croient tout permis.
On y vient,
c'est
d'accord. Et croient qu'ils ont tous les droits parce qu'ils rentrent dans le bistrot et qu'ils vont payer. Mmh. Alors, évidemment, quand vous en avez vu une cinquantaine comme ça dans la matinée, le 51e, il risque de prendre une absence de sourire.
Et Pierre Santini, vous dites, je veux payer mon café, mais pas trop cher. Justement, l'article fait allusion aussi, par exemple, aux deux magots, où c'est 5€ l'expresso.
Oui, mais ça c'est 17, hein.
Ça sourit. Ça sourit pas forcément, paraît-il. Je vois, moi, je mettrais jamais les
pas, mais...
Ah bah non, on va pas question de payer 5€ l'expresso.
Comme je suis d'origine italienne, je bois beaucoup de café. Et je m'arrête souvent dans les bistrots pour boire un café au bar. Le café, aujourd'hui, il oscille au bar entre un 20 et un 50 dans les bistrots normaux. Ouais. C'est quand même 6 fois et demi plus cher que ce que c'était...
Est-ce que c'est encore en Italie aujourd'hui?
Parce que moi, avant, je payais 1,20 € mon café. Maintenant, je le prends 1,50 €. C'est 1,50 €, c'est 10 balles.
Et quand Chewbacca commande un café, là, il n'y a personne qui moufte. Hein, parce qu'avec vos biceps et vos tatouages, il n'y en a pas un qui.
En
qui
Italie, moi, j'avais une maison qui allait au café et que le café n'était pas bon, il cassait la tasse.
C'est vite réglé. C'est une solution à la mauvaise humeur de tout le monde. Alex Vizorek, vous avez une proposition à faire à Pierre Santini, l'un de nos plus grands acteurs de comédien de théâtre.
Comme tous les jours, on propose un sketch à l'invité qu'il découvre. Je vous donne un rôle parce que peut-être vous avez entendu cette information. Le patron des boulangeries Paul a dit qu'il voterait Fillon. Et on se dit, mais quelle va être l'ambiance dans les boulangeries Paul? Alors on en a trouvé une au centre de Paris. Vous êtes le boulanger et toute la table, on vient faire les clients.
Bonjour monsieur, je voudrais une baguette s'il vous plaît.
Et alors?
Pardon, je voudrais une baguette s'il vous plaît.
Quoi, une baguette? Baguette comment?
Ah, c'est quoi la moins chère?
Une François ou une Pénélope?
Bah c'est quoi la moins chère?
Bah je sais pas, les deux sont à 900 000 euros pièce.
C'est du vol?
Non, c'est pas du vol, ce sont des fillons.
Bonjour monsieur, vous avez quoi comme pâtisserie?
Ah ben je vais vous proposer notre spécialité, le gland.
Ah, comme ceux des mocassins de votre candidat?
Non, les nôtres sont comestibles, madame.
Ah, monsieur, vous voulez dire que votre chouchou pour la présidentielle serait indigeste?
Non, c'est le chouchou du patron, pas le mien.
D'accord, mais alors pourquoi vous travaillez pour lui?
Oui, il faut démissionner, là.
On pourra aller où? J'ai la durée.
Bah, par exemple.
Attendez, vous allez voir que j'ai la durée. Ils vont pas tarder à soutenir Emmanuel Macron, là.
Vite, nous avons faim. C'est notre projet.
Ah, bah, vous tombez bien, monsieur Macron. Puis-je vous offrir un financier?
Pardon de vous le dire, hein, mais que ça vous plaise ou non, et je vais être très clair, j'adore les financiers. Mon ami, c'est le financier.
Ah, bah, très bien. Je peux aussi vous proposer des mendiants.
Ah, pardon de vous le dire, mais que ça vous plaise ou non, je vais être très clair, je préfère les financiers.
Et oui, vous avez quoi comme sandwich?
Ah, mon ventriloque. Bonjour madame Le Pen.
Il me reste des jambons beurre.
Ah, bah alors donnez-moi un jambon.
Ah, c'est ça, vous n'aimez pas les beurres. Hein.
Non, mais papa aurait adoré ce calembour, n'est-ce pas?
Et en dessert, vous voulez quoi? Un baba au rhum?
Donnez-moi seulement le baba.
Pourquoi? Vous voulez que je renvoie le rhum?
Ah, bah vous comprenez vite, vous.
Bonjour, monsieur Paul.
Monsieur Cheminard. Quelle soucoupe vous amène?
Je voudrais une barre chocolatée.
Ah, bah tenez, voici un Mars.
C'est quand même, c'est bizarre, hein, un boulanger qui soutient Fillon.
Bah pourquoi vous dites ça?
Bah j'aurais plutôt imaginé que Fillon soit soutenu par Euromillion.
Chewbacca, vous avez un sens de la chute, mais bam, sans pareil. Bam.
Pierre Santini dans le rôle de boulanger de chez Paul, parce que rappelons que
parfait,
oui, Santini. Parce que la durée, c'est le fils qui
c'est la même famille,
et qui est en dispute avec son papa parce que son papa a dit qu'il votait Fillon. Enfin, c'est un abruti.
Il a dit que attendez, il a dit au nom de tout son personnel, qui sont je sais pas combien de milliers, qu'ils voulaient tous voter Fillon, et puis le personnel a pas mal réagi.
Il n'avait pas prévu.
Pierre Santini, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Je rappelle qu'on peut vous voir au théâtre en ce moment, c'est au Feu de la Rampe.
Si vous aimez la politique et le théâtre, c'est vraiment une pièce que je
recommande. Et si vous aimez rire,
oui aussi,
parce qu'on rit beaucoup et ça
me
fait, c'est du beau moqueur tous les soirs.
C'est
et puis il y a des moments de tension avec de l'émotion qui passe. Non, il faut venir.
Voilà.
Validé par Alex Vizorek, la passation avec Éric Logérias. Merci beaucoup Pierre Santini au Feu de la Rampe. Et j'en profite aussi pour dire que Guillaume Meurice sera en dédicace à la Lucarne des Écrivains demain soir à 19h. C'est où?
C'est dans le 19e arrondissement, rue de Lourdes.
Et voilà, c'est dit.
Avec mon livre que j'ai écrit avec mon ami Marc Large.
Exactement. Le mot de la fin à Emmanuel Macron en meeting.
Vous êtes là aussi pour que je vous éclaire, vous instruise, vous élève et vous envoie vers un avenir qui ne vous est plus inconnu. Alors qui m'aime me suive.